Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le programme hebdomadaire santé de VOA Afrique présenté par Nalit Talani. On entend souvent dire que pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. Quels sont réellement les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé? C'est autour de cette question que s'articule Votre Santé, Votre Avenir de cette semaine. Pour y répondre, nous nous entretiendrons avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France.
Le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, du cœur. Il est exposé à beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
M. Bengali Daouda Boukar est professeur de sport à Limoges en France. Après cette interview, vous suivrez Carnet de santé avec Linor Moudou dans la deuxième partie de l'émission. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme promis, voici notre interview avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Notre interview va s'articuler sur les bienfaits de l'activité sportive. Bonjour M. Bengali.
Bonjour.
Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Quels sont les bénéfices du sport pour l'organisme humain?
Les bénéfices sont énormes. D'abord, en termes de santé, plus on fait une activité, mieux le corps se porte. Au niveau des renforcements musculaires, au niveau du maintien musculaire, au niveau des os, au niveau cardiaque, il y a plein de bénéfices.
Le sport procure-t-il des bienfaits sur le plan mental?
Au niveau mental aussi, on a pas mal de récupération puisque plus on fait du sport, je crois mieux le cerveau aussi travaille très bien. Et puis, il y a aussi un côté bénéfique du sport, c'est au niveau de la socialisation. Ça rapproche les gens.
Merci beaucoup. Et pour le maintien de l'organisme, quelles sont les différentes sortes de sports qui sont recommandées?
Ça dépend de l'organisme des uns et des autres. Il y a des gens qui sont destinés peut-être pour faire de sport de force. Il y en a qui font de sport d'équilibre. Il y en a qui font de sport d'endurance.
Est-ce que le sport, c'est toujours de la compétition?
D'abord, quand on parle sport, on parle compétition. Mais pour le commun de mortel, c'est le fait d'aller courir, le fait d'aller sauter un tout petit peu, le fait de faire d'autres activités. Tout cela concourt au maintien de la santé, concourt à l'amélioration de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait de moins en moins aujourd'hui en raison de la sédentarité maintenant que les gens ont acquise dans les grands centres.
Dans les villages et même dans les villes, il y a beaucoup de gens qui font des travaux manuels de façon quotidienne. Est-ce que ces personnes doivent encore pratiquer du sport de façon régulière?
Non, ces gens-là, ils font déjà une activité. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur faire comprendre que, bon, en dehors du travail qu'ils font, il y a autre chose qui concourt à leur santé. Parce que les gens qui sont dans les campagnes, déjà les femmes, le fait d'aller chercher de l'eau plus loin, elles marchent longtemps. Le fait de transporter des fagots, c'est aussi une activité. Le fait de cultiver, de labourer son champ, c'est aussi une activité. Donc tout ça là, ce sont des activités. Mais un certain nombre de parties du corps ont besoin d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on va beaucoup plus aider ces gens-là à comprendre le fonctionnement de leur propre corps, comment aménager son corps, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps résiste en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'activité. Il y a des activités qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait quotidiennement.
Quelles peuvent être ces différentes activités?
Le fait de marcher, le fait d'aller se baigner dans un fleuve, de nager un peu, le fait de faire de l'équitation ou le fait de faire un peu de vélo. Tout ça concourt au renforcement de la santé et de la capacité de l'organisme.
Est-ce que le sport ou l'activité physique peut prolonger l'espérance de vie d'une personne?
Vous savez que ça n'a peut-être pas d'incident, mais il y a des gens qui ne font pas de sport et qui vivent longtemps, et il y a des gens qui font du sport et qui meurent sur le terrain. Donc tout cela est fonction vraiment de l'organisme des uns et des autres et de la gestion. Si on connaît bien son organisme, si on gère bien son organisme, peut-être que l'espérance de vie se prolongerait. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout, mais qui vivent le plus longtemps possible.
Comment peut-on expliquer le fait que certaines personnes pratiquent du sport meurent vite alors que d'autres ne pratiquent pas du sport mais vivent longtemps?
C'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. Entre ceux-là, c'est le contrôle quotidien, hein, c'est le contrôle sans arrêt. Parce que s'ils ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer. Parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport, dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention.
Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens?
Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens ils mouraient simplement parce que on dit qu'ils ont la maladie ou ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, on court moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne, que voilà, il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie.
Les personnes qui souffrent, par exemple, des maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière?
Non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, elles doivent être sous contrôle médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite, et il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui les contrôlent, ça.
Les personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être recommandées?
Beaucoup plus de marche. Les personnes âgées, aujourd'hui, avec l'urbanisme, maintenant les gens marchent peu. Et plus on grandit, plus on est âgé, plus on prend un peu aussi du poids. Et si on ne fait pas d'activité pour éliminer tout ça, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment, c'est assez compliqué. Mais je crois que tout médecin conseillera à l'avance, il faut marcher.
En rapport avec la marche, on a un auditeur qui s'appelle Daniel Lass, il est de la RDC. Il pose la question suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km trois fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir de répercussions sur ma santé?
Déjà, marcher trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marcher, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça ne sert à rien si on doit marcher 12 km et puis après, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange des McDo. Donc c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos, mais si une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. On a un autre auditeur, Alphonse Mbouaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse précoce.
Ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir.
Eh oui.
Mais bon, déjà, le fait d'être régulièrement en activité, c'est un plus. Hein. On est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien et puis en plus, il mange bien. S'il n'a pas de maladie, s'il n'a pas de problème de santé, évidemment, sauf accident de circulation. Autrement dit, il n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport?
Les enfants, c'est d'abord le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Ils sortent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend dépend de pas mal de choses, mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, le sport.
Pour un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique? Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe?
Bon, il y a des gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive, et tant mieux. Si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire. Mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui, j'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je vais pas m'arrêter. C'est pas parce que j'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique, hein.
Pour terminer notre interview, que peut-on faire pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui hésitent à faire de l'activité physique?
Malheureusement, mais il faut leur faire peur un peu. Est-ce que le fait de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange simplement, qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
Merci beaucoup, Monsieur Bengali, d'avoir répondu à nos questions.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
C'était notre entretien avec Monsieur Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec Léon Moudi.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, un regard sur l'impact des émotions fortes sur la santé des supporters. Pourquoi faire attention à ses émotions en assistant à une compétition de sport? Un expert nous en dit plus. Ensuite, l'Ouganda reçoit des doses de vaccins candidats contre Ebola pour des essais cliniques. Enfin, des adeptes d'exercice physique au Zimbabwe se retrouvent dans un cadre inhabituel pour garder la forme. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. L'euphorie, le stress, l'anxiété, le chagrin sont certaines émotions ressenties par les fans de sport et supporters lors des compétitions. Cela peut aller d'un sentiment de fierté et de satisfaction lors d'une victoire à une déception très profonde lors d'une défaite. Le football est décrit comme une montagne russe émotionnelle pour les adeptes du ballon rond. Selon les experts, les défaites durant les matchs de football ont été liées, entre autres, à un taux élevé de tentatives de suicide et de détresse psychologique. Des recherches montrent que les problèmes cardiovasculaires, tels que les crises cardiaques et l'arythmie cardiaque chez les patients hospitalisés, augmentent en raison du stress qui accompagne le fait de regarder un match de football. Depuis le 20 novembre, la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein. Sur les 32 nations, il n'en reste plus que 4, dont un seul du continent africain, le Maroc. Moment de joie et souvent de tristesse, cette compétition chargée en émotions peut aussi avoir des impacts sur la santé des supporters. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, nous plonge dans l'univers souvent mouvementé des supporters.
8 minutes, c'est le temps additionnel que l'arbitre de touche vient d'indiquer avant de voir tout un continent jubiler pour une qualification historique en demi-finale. Mahamoud, un Marocain vivant au Mali, ne peut plus se tenir en place. Il libère son stress sur le malheureux bidon coincé entre ses mains. Au coup de sifflet final, il admet qu'il était au bord de la crise.
Mon corps, il est arrivé. Waouh, c'est incroyable.
Cette journée des quarts de finale a été précédée par une autre plus palpitante avec autant de surprises qui a vu l'élimination du Brésil par la Croatie et l'Argentine qui a failli se faire renverser par les Pays-Bas de Mensis Depay.
Une Coupe du Monde avec tant de surprises. Hier, moi, je dirais que les cardiaques n'avaient pas leur place. Parce que quand deux grandes équipes mondiales, telles que le Brésil et l'Argentine, devraient jouer les quarts, et le Brésil était sorti, tous les yeux étaient rivés sur l'Argentine. Et au moment des tirs au but, franchement, ça n'a pas été facile.
Le docteur Modibo Doumbia, un chirurgien thoracique cardiovasculaire, explique le processus de crise chez les supporters, disant qu'il est préférable d'être plus raisonné.
Garder quand même l'air calme, quel que soit le score et quels que soient les événements qui se passent, parce que l'explication est très simple, c'est les gens qui ont des cardiopathies qui existent. Et donc, quand il y a un événement malheureux, ils vont faire un stress. Et ce stress-là va dégager des hormones qui, à la longue, vont entraîner la libération de certaines plaques au niveau des vaisseaux. Et ces vaisseaux peuvent aller boucher les réseaux coronaires au niveau du cœur qui est responsable des crises cardiaques. Donc, c'est pour dire qu'ils doivent se calmer, regarder le football et considérer comme un jeu.
Une thèse que soutient Abdoulkarim Sanogo, fervent supporter du Paris Saint-Germain.
Être passionné, moi je pense que c'est bon, mais il faut aller à la limite des choses. Surtout quand on sait qu'on est maladif, donc on doit en réalité supporter dans la mesure du possible.
En attendant le 18 décembre, date de la fin de la Coupe du Monde, les supporters des pays encore en liste tâcheront de faire sien le conseil donné par les médecins, même si ce n'est pas sûr qu'ils y parviennent. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le docteur Samuel Obodiminou est directeur adjoint du département de médecine du sport au ministère nigérian de la jeunesse et des sports. Il explique pourquoi les personnes qui ont certains problèmes de santé devraient faire attention à leurs émotions lors de compétitions sportives comme la Coupe du Monde.
La dopamine est un précurseur de l'adrénaline et elles sont toutes deux produites par les glandes surrénales qui sont un petit organe en forme de haricot au-dessus des reins. Elle est également produite le long de notre tube digestif et au milieu de l'hypothalamus. La dopamine est responsable de la sensation de satisfaction, de la sensation de plaisir et de la motivation, tandis que l'adrénaline est responsable de la lutte ou de la fuite. Lorsque vous avez un niveau élevé de dopamine dans le corps, cela peut aider à augmenter votre capacité d'apprentissage, ce qui pourrait être une bonne chose, mais cela peut aussi entraîner une privation de sommeil. Elle peut augmenter votre libido. Si vous êtes privé de sommeil, l'insomnie ne coupe pas votre niveau de concentration. Et bien sûr, quelqu'un qui a une libido élevée, ça peut être un souci. Donc lorsque l'adrénaline est libérée, elle vous prépare au combat. Le sang est détourné vers les muscles et le niveau de glucose dans les muscles augmente. Vous pouvez constater que la respiration peut devenir superficielle. Cette sorte de poussée d'adrénaline, lorsqu'elle devient répétitive, est connue pour endommager les vaisseaux sanguins et à cause de l'augmentation du rythme cardiaque, elle peut conduire à l'arythmie. Chez les fans du sport, l'adrénaline est élevée et l'on s'aperçoit qu'elle peut conduire certains d'entre eux à des perturbations inutiles, comme on le voit parfois dans certains matchs. Et le temps qu'ils se calment, les dégâts sont là. Mais il y a des gens qui savent qu'ils ont le cœur fragile et à cause de cela, ils ne regarderont jamais un match en direct. Certaines personnes ont déjà des antécédents de santé. Il est donc déconseillé d'y aller car la montée d'adrénaline, la puissance qui entre en jeu, peut même provoquer une hyperventilation. Ainsi, selon l'équipe que vous soutenez, vous constaterez qu'en raison de l'attachement au jeu, la montée d'adrénaline peut conduire certaines personnes à un arrêt cardiaque brutal. Et c'est pourquoi dans certains stades, ils ont des défibrillateurs et des points de premier secours. En outre, certaines choses peuvent se produire lors d'un rassemblement de masse. Par exemple, si certaines personnes se mettent en colère avant la fin du match, les portes sont ouvertes pour éviter une bousculade et d'autres incidents de ce genre.
Selon des groupes d'aide, des épidémies de rougeole et de choléra dans le camp de réfugiés congestionné de Dadaab au Kenya ont tué au moins 5 personnes et en ont rendu plus de 400 malades. Ces épidémies surviennent alors que des milliers de Somaliens sont arrivés dans le camp cette année pour échapper à une sécheresse record dans le pays, mettant à rude épreuve les ressources du camp. Juma Majanga rapporte depuis le camp de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du Kenya.
Shamsa Adan, réfugiée somalienne, est reconnaissante que son fils Abdoulaye soit en vie, mais leur histoire est celle de la survie et de la mort. Elle est devenue handicapée après avoir été abattue 9 fois en 2003 par des militants d'Al-Shabaab qui ont tué son mari avec une grenade en mai de cette année. En octobre, la sécheresse record qui sévit en Somalie a fait mourir de faim sa fille de 2 ans, si bien qu'elle s'est réfugiée dans le camp de Dadaab au Kenya. Puis une épidémie de choléra et de rougeole a tué sa fille de 4 ans en novembre et le choléra a rendu malade Abdoulaye, qui est toujours en convalescence.
Cela me fait avoir des flashbacks douloureux. Je me sens mal à propos de mon mari qui a été tué. Je me sens mal à propos de la mort de mes enfants. Je ne suis pas capable d'en parler.
Adan est l'un des plus de 80 000 Somaliens qui, selon les Nations Unies, ont fui depuis octobre vers le camp surpeuplé de Dadaab au Kenya pour échapper à la sécheresse, mais qui ont été confrontés à la maladie. Dans la ville voisine de Hagadera, le centre de santé de l'International Risk Committee a traité à lui seul près de 300 cas de choléra depuis l'épidémie d'octobre.
Mais à cause des courtes pluies que nous avons connues récemment et qui s'ajoutent à l'épidémie actuelle, les cas pourraient vraiment monter en flèche.
La plupart des patients sont des enfants, comme le fils de 3 ans du réfugié somalien Adar Abdikadir.
Je pensais que mon enfant allait mourir, mais je remercie Dieu qu'il soit en vie. On lui a donné des médicaments pour l'aider à se rétablir.
Le choléra est aggravé par une épidémie de rougeole dans le camp, un virus infantile qui se propage par les éternuements et la toux.
Dans un contexte où il y a une surpopulation dans l'espace disponible, parce que si on n'a pas le droit de faire une bonne planification des sites, de décongestionner les camps, ça veut dire que les gens sont les uns sur les autres et ça peut se propager comme une traînée de poudre.
Les médecins notent que les enfants mal nourris par la sécheresse sont plus vulnérables aux maladies. Pendant ce temps, le gouvernement et les groupes d'aide affirment qu'ils mobilisent des ressources pour tenter de lutter contre ces deux épidémies.
L'Ouganda a reçu une cargaison de vaccins candidats contre Ebola à utiliser dans un essai clinique. Une épidémie de la maladie virale a infecté 142 personnes et en a tué au moins 56 selon les données officielles. L'Ouganda a renvoyé le dernier patient Ebola de l'hôpital, laissant espérer la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique mortelle déclarée le 20 septembre. Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre la souche soudanaise du virus à l'origine des infections en Ouganda. Les vaccins existants combattent la souche Zaïre la plus courante, qui a été découverte lors d'épidémies en République démocratique du Congo voisine. L'OMS prévoit d'envoyer 3 candidats vaccins en Ouganda pour qu'ils soient utilisés dans un essai, l'un par l'Université d'Oxford et le Serum Institute of India, un autre par le Sabin Vaccine Institute et un troisième par Merck. L'essai consiste à déterminer si l'un ou l'ensemble des 3 est efficace dans la lutte contre la souche soudanaise. Les 1200 doses reçues par l'Ouganda proviennent du Sabin Vaccine Institute. Une nouvelle tendance au Zimbabwe à faire du sport pour garder la forme se heurte au manque de salles de gym adéquates dans les townships. Ceci incite certains de se tourner vers un espace hors du commun, le cimetière. Reportage David Doyle.
Il est tôt le matin dans un cimetière de Harare. Le silence est brisé par un cours de fitness. Après avoir été enfermé à l'intérieur pendant la crise sanitaire mondiale, de nombreux Zimbabwéens sont devenus plus soucieux de leur santé. Mais certains cantons, comme celui-ci, Warren Park, ont peu d'installations et les habitants ont été contraints d'improviser. L'instructeur Tichaouna Macheka dit qu'un cimetière leur donne de la place pour faire de l'exercice.
Si nous nous entraînons à la maison, nous allons faire du bruit pour les voisins. Alors nous avons décidé de le faire ici parce que beaucoup de gens disent que dans un cimetière, il y a de l'espace, beaucoup d'espace et de paix.
Le cimetière de Warren Hills est un endroit populaire et pour de nombreux habitants, comme l'assistance sociale Agnès Tigoudé, les cours font désormais partie de leur routine quotidienne.
J'ai réalisé que je prenais trop de poids. J'étais en surpoids. Je peux dire que j'étais obèse. Donc pour moi, je devais faire quelque chose à ce sujet. J'ai besoin de brûler des calories et d'avoir un corps normal.
Cependant, pour certains, l'aérobic vêtu de lycra, près des derniers lieux de repos d'êtres chers, peut sembler désagréable. pour les autres, un peu effrayant. Leslie Madebuko, 19 ans, confirme que le cimetière met certains mal à l'aise, mais pas elle.
Mais je ne vois rien de mal à venir ici. Nos ruraux sont toujours superstitieux, mais nous n'avons pas peur.
Pour les résidents de Warren Park, soucieux de leur santé, le cimetière est une solution intelligente pour pallier le manque d'installation. Les cours permettent également d'intégrer l'exercice dans des horaires chargés tout en ayant la possibilité de socialiser. À la fin d'une séance de groupe, les personnes endeuillées commencent à arriver. La musique s'éteint, les joggers font leur dernier tour et le cimetière retrouve son calme quotidien.
C'est ici que s'achève le magazine Votre Santé, Votre Avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par les normes du. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tchéro. Devant ce microphone, Nani Tosalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Go back.